Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle donc Radicaux Libres, sur le site de la radio qui s'appelle Radio Alpa, et le site c'est radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la grève à la SNCF. Les médias nous ont rebattu les oreilles avec des slogans libéraux habituels. Prise d'otage, c'est pas moi qui le dis, ce sont les voyageurs, pourraient nous renvoyer le journaliste seul responsable du montage de son micro-trottoir. Des plateaux télé et radio ont eu lieu dans des émissions les plus putassières pour expliquer en quoi les nantis de la SNCF n'avaient pas à se plaindre. Le concert normal de la désinformation financé soit par l'État, je donne des sous pour ça, ou des milliardaires, détenteurs de médias, qui sont très nombreux à détenir des médias, très nombreux dans les mains des milliardaires. Pour assurer les voyages qui rapportent, c'est-à-dire les touristes, les grands voyageurs, les abonnés de TGV, la SNCF a déshabillé les TER tout le début de la semaine, et pour déjouer le mouvement social des contrôleurs, elle a fait appel à des cadres briseurs de grève volontaires pour pallier l'absence des 60% de contrôleurs qui se sont déclarés grévistes. Invisibiliser les mouvements sociaux après avoir hurlé avec les loups contre les salariés revendicatifs, on fait d'une pierre deux coups. Premier coup, les démagogues au micro ont eu des micros et des écrans ouverts pour relancer l'idée de limiter encore et encore le droit de grève. Valérie Pécresse, Philippe Tabarot, l'actuel ministre des Transports, Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, par exemple. Second coup, montrer à ceux qui auraient des velléités d'amélioration des conditions de travail ou de rémunération par la lutte que la grève ne sert à rien. C'est quand même un petit peu dangereux, très court-termiste comme on dit, sauf pour les négociations annuelles obligatoires qui appellent forcément des réponses aux demandes des salariés, les discussions liées aux revendications qui se font jour en dehors des NAO sont difficiles à obtenir. Dans les NAO, il y a obligation. Mais après, avant, c'est compliqué. Et ces discussions s'ouvrent au bon vouloir des directions d'entreprise. Et des menaces de grève n'y suffisent souvent pas pour amener à une négociation. Donc, il y a grève. Mais si la grève est invisibilisée par les cadres volontaires qui engrangent une prime, les tensions qui ont déclenché cette grève ne vont pas s'évaporer, même si, à court terme, la direction semble avoir gagné. Comment va s'exprimer l'absence de dialogue et le ressentiment qui va avec? La souffrance psychique au travail transparaît de plus en plus. Y a-t-il peut-être un lien à faire avec la brutalisation des techniques managériales? Et pourtant, la SNCF a bien sûr entamé une démarche RSE. Y a même un superbe rapport pondu chaque année. On aurait pu vous parler de la honte sur toi. Shame on you. À Nantes, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai, des banques et sociétés d'assurance liées à Total Energy ont vu leur façade repeinte en noir, comme si elles avaient été arrosées de pétrole. Souvenons-nous que Total a besoin de financement pour continuer à ravager la planète en puisant du pétrole qui sera brûlé à raison de presque 100 millions de barils par jour. Pourquoi faire ? Pour produire. Mais pour produire quoi ? Que des trucs, mais pas forcément des trucs intéressants pour l'ensemble de la population, mais qui rapportent, je vous rassure. On aurait pu vous parler du Grand Prix de France qui a eu lieu les 9 et 10 et 11 mai sur le circuit Bugatti au Mans. Pour les auditeurs du direct, c'est en ce moment. Mais un son est parfois plus parlant. Alors vous entendez des petits oiseaux ? Mais pas que. Derrière, il y a ça. Le ça en question est à plusieurs kilomètres, puisque là, ce son a été pris au Jardin des Plantes, vendredi matin vers 9h, avec des jolis petits oiseaux et un joli petit vent du sud. Alors bien sûr, on m'objectera que c'est un point haut, le Jardin des Plantes, et sûrement qu'en fond de vallée, au fond de vallée de l'Huisne, au Sablon, on entend moins. Des témoins sans enregistreur m'affirment que c'est quand même fort. Alors imaginez les populations habitant aux sources, aux Glonnières, quartier du Maroc, ou à Mulsanne. Je crois que le plus odieux réside quand même dans quelques règles à respecter que l'on trouve sur le petit dépliant présentant la compétition. Un dépliant qui fait de la pub pour les partenaires du Grand Prix et nous dit sans rire qu'il est interdit de faire du bruit au-delà de minuit pour le confort de tout le monde. Par contre, le reste de la journée, il n'y a pas de souci. Le suivant est pas mal non plus puisqu'il est dit pour l'environnement, ne pas oublier de mettre ses déchets dans les poubelles. Par contre, pour les gaz d'échappement des motos, les gaz d'échappement des motos qui font des tours, les équipes qui ont amené les motos qui sont venues comment ? Avec des véhicules à moteur à explosion, des spectateurs qui viennent voir les motos, qui empuantissent l'ensemble de l'atmosphère, ça c'est pour tout le monde. Mais attention, hein, mets ta canette et ton emballage acheté hors de prix sur le circuit dans la poubelle. On m'a dit que j'allais trop loin et que ce genre d'événement assure la renommée de la ville. Ouais, on aura l'air fin à promouvoir à tout prix notre pauvre bled quand on sera en train de crever d'une maladie liée à l'environnement. On aurait pu vous parler également d'éoliennes qui flambent, de Arpège, un logiciel CPAM testé dans la Loire-Atlantique et en Vendée au mépris des populations qui s'en servent, des dirigeants d'extrême droite israéliens qui s'apprêtent à faire encore pire que ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire ajouter l'expulsion des survivants au génocide. Mais finalement, on a préféré vous parler de l'idée d'abolir le travail. Tout d'abord, réparons un oubli. La dernière fois, nous avons discuté amiante et maladie professionnelle avec Pascal Luré et Sonia Hertz de l'association ADEVA 72, association de défense des victimes de l'amiante et des autres maladies professionnelles de la Sarthe. Et voilà que nous avons omis de donner des contacts. Nous pouvons donc nous renseigner sur les activités et pourquoi pas participer aux actions de l'ADEVA en envoyant un mail à adeva72@orange.fr, adeva72@orange.fr ou alors téléphoner aux 06 38 81 40 16, 06 38 81 40 16, pour convenir d'un rendez-vous dans les locaux qui sont 117 rue de l'Angevinière, impasse Pamplemousse. Je ne savais pas que ça existait. Donc voilà qui est réparé. Abolir le travail. Ni plus ni moins, voici le thème du jour. Mais quel travail ? Eh bien celui qui est le plus souvent confondu avec l'emploi. Le travail salarié, voilà la cible. Elle l'était déjà de la CGT en 1906 lors du congrès d'Amiens. Les délégués de toute la France avaient voté une résolution qui confirmait que le but de la CGT était bien la disparition du patronat et du salariat, dans l'optique de considérer, je cite, que le syndicat aujourd'hui groupement de résistance sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition base de réorganisation sociale. Ça s'est pas encore fait. Tout d'abord, pourquoi abolir le travail ? Eh bien, pour son inutilité. Il apparaît de plus en plus clairement qu'une partie de l'activité salariée n'a aucun intérêt collectif. Le reporting, la gestion de la tarification à l'acte dans les services de santé, ça occupe du monde. Le contrôle de gestion, le trading, j'en passe, et du pire. Tout ça ne sert absolument pas l'intérêt collectif, mais sert bien sûr ceux qui veulent accumuler le plus de profits possible. Devenir le plus riche du cimetière, voilà leur but. Un certain David Graeber, anthropologue de son état et anarchiste de cœur, mort en 2020, avait produit un texte dans un magazine qui s'appelle Strike, ce qui veut dire grève. Très bon titre des Thugs aussi. Le strike en question, apparu entre 2012 et 2017 en Amérique du Nord. C'était un magazine anarchiste en ligne. Et dans le numéro 3, on pouvait lire un texte de David Graeber intitulé « Le phénomène des emplois foireux, The Bullshit Jobs, un coup de gueule sur le travail ». Voilà, c'est la version en français. Je cite le début. En 1930, John Maynard Keynes a prédit que d'ici la fin du siècle, la technologie aurait suffisamment progressé pour que des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis soient parvenus à une semaine de travail de 15 heures. Tout porte à croire qu'il avait raison. En termes technologiques, nous en sommes tout à fait capables et pourtant cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, la technologie a été mise à contribution pour trouver des moyens de nous faire travailler davantage. Pour y parvenir, il a fallu créer des emplois qui en fait ne servent à rien. Des pans entiers de la population, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, passent leur vie professionnelle à effectuer des tâches dont ils pensent secrètement qu'elles ne sont pas véritablement nécessaires. Les dommages moraux et spirituels qui découlent de cette situation sont profonds. Il s'agit d'une cicatrice qui traverse notre âme collective. Pourtant, personne, ou presque, n'en parle. Pourquoi l'utopie promise par Keynes, encore attendue avec impatience dans les années 1960, ne s'est-elle jamais concrétisée ? On dit aujourd'hui qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation massive du consumérisme. Si nous avons le choix entre moins d'heures de travail et plus de jouets et de plaisir, nous aurions collectivement opté pour la seconde solution. C'est un beau conte moral, mais même à l'instant de réflexion, montre que ce n'est pas vraiment le cas. Certes, nous avons assisté à la création d'une variété infinie de nouveaux emplois et de nouvelles industries depuis les années 20. Mais très peu d'entre eux ont un rapport avec la production et la distribution de sushis, d'iPhone ou de baskets de luxe. Alors voilà le début, s'ensuit toute une démonstration sur le rôle des emplois foireux. En gros, nous garder au turbin. Une démonstration qui sera tellement relayée au-delà des cercles anarchistes que David Graeber recevra des tonnes de témoignages de personnes qui racontaient leur quotidien au travail, ce qui donnera un livre sur les emplois foireux, The Bullshit Jobs, paru en 2018. Dans l'article de Strike numéro 3, il finit comme ça. Si quelqu'un avait conçu un régime de travail parfaitement adapté au maintien du pouvoir du capital financier, on voit mal comment il aurait pu mieux faire. Les vrais travailleurs productifs sont pressurés et exploités sans relâche. Les autres sont répartis entre une strate terrorisée de chômeurs, universellement vilipendée, et une strate plus large qui est essentiellement payée pour ne rien faire, dans des positions conçues pour leur permettre de s'identifier aux perspectives et aux sensibilités de la classe dirigeante. Et là, il donne comme exemple les gestionnaires, les administrateurs, etc. Et en particulier à ces avatars financiers. Mais en même temps, pour nourrir un ressentiment latent à l'égard de tous ceux dont le travail a une valeur sociale claire et indéniable, il est clair que le système n'a jamais été conçu consciemment. Il est le fruit de près d'un siècle d'essais et d'erreurs. Mais c'est la seule explication au fait que, malgré nos capacités technologiques, nous ne travaillons pas tous 3 ou 4 heures par jour. Cette explication, l'explication que Graeber donne dans son texte, est renforcée par les travaux plus anciens de Marshall Salins, anthropologue, décidément, qui avait écrit un livre sur l'économie des sociétés dites primitives, intitulé « Âge de pierre, âge d'abondance », que je vous recommande. Pour tordre le cou des délires néo-darwinistes, de la guerre de tous contre tous d'abord, et tordre également le cou aux injonctions libérales qui nous réduisent à des ressources humaines, nées pour gagner notre vie. Plus loin de Graeber encore, on pourra relire le droit à la paresse de Lafargue, qui donne déjà des petites idées sur comment on pourrait faire pour arrêter de travailler comme des brutes alors que finalement on n'en a pas besoin, à part bien sûr pour créer du profit qui sera accaparé par une toute petite partie de la population. Et puis bien sûr Karl Marx, qui est bien loin du discours du PCF du 21e siècle. Les militants du PCF, faites quelque chose quand même. Voyez plutôt ce qu'il nous disait dans Le Capital, bien sûr. En fait, le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur. Il se situe donc par nature au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite. De même que l'homme primitif doit lutter contre la nature pour pouvoir à ses besoins se maintenir en vie et se reproduire, l'homme civilisé est forcé lui aussi de le faire et de le faire quelle que soit la structure de société et le mode de production. Avec son développement s'étend également le domaine de la nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent, mais en même temps s'élargissent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu'il la contrôle ensemble au lieu d'être dominé par sa puissance aveugle, et qu'il accomplisse ces échanges en dépensant le minimum de force. Ouais, il n'était pas très écolo, Karl Marx. 19e, c'était pas trop le moment. Hein. Bon, heureusement, on est passé à autre chose. Mais de fait, s'arranger avec la nature pour obtenir une partie de ce dont on a besoin, c'est peut-être pas si con. Je continue. Et dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à leur nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi. Le véritable royaume de la liberté qui ne peut s'épanouir qu'en se fondant sur l'autre royaume, sur l'autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. Voilà, Le Capital, 1867, livre 3, chapitre 48, pour ceux qui voudraient aller vérifier, puis lire le reste. Pour se libérer, il nous faudrait donc une bonne révolution, admet William Morris, un socialiste britannique du 19e siècle. En 1884, il donne une conférence à Londres dans un club, celui d'Hampstead. La conférence s'intitule « Travail utile, fatigue inutile ». Dans cette conférence, il extrapole la place du travail après la Révolution. Je le cite. Mais quand la Révolution aura rendu la vie facile, quand tout le monde travaillera ensemble dans l'harmonie et qu'il n'y aura personne pour voler son temps à l'ouvrier, autrement dit sa vie, rien ne nous obligera à l'avenir de continuer à produire des objets dont nous ne voulons pas. Rien ne nous obligera à trimer pour rien. Nous serons en mesure de choisir, de façon calme et réfléchie, ce que nous décidons de faire de notre capital de force de travail. Or, je pense pour ma part que le premier usage que nous pourrions faire de cette richesse et de cette liberté serait de rendre tout notre travail, y compris le plus ordinaire et le plus nécessaire, agréable pour tout le monde. À force d'y réfléchir, j'estime que la seule manière de rendre la vie heureuse, malgré tous les accidents et tracas susceptibles d'intervenir, est de prendre du plaisir et de s'intéresser à tous les détails de l'existence. Au cas où l'on trouverait ce propos trop galvaudé pour mériter d'être repris, permettez-moi de vous rappeler que la civilisation moderne s'y oppose entièrement. Permettez-moi de vous rappeler les détails ignobles et même effroyables dont elle entoure la vie du pauvre, l'existence vide et mécanique qu'elle impose aux riches, et à quel point il arrive exceptionnellement à l'un ou à l'autre d'entre nous de se sentir partie intégrante de la nature et d'observer sans hâte, avec bonheur et réflexion, le cours de son existence au cœur des petits enchaînements d'événements qui les relient à l'existence des autres pour constituer le grand tout de l'humanité. Pourtant, notre vie tout entière pourrait être une fête si nous étions résolus à rendre tous nos travaux raisonnables et agréables. Mais notre détermination doit être inflexible, car, en l'occurrence, les demi-mesures ne nous seront d'aucun secours. C'est clair.
J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout.
Avec les Oufris Maracas, on pourrait avoir cette attitude radicale, puisqu'il faudra être inflexible, essayer d'aménager par-ci, par-là, réduire le temps de travail d'une heure par-ci, par-là, essayer d'obtenir un peu plus de salaire par-ci, par-là. Finalement, ça nous mène où ? Le travail salarié sert à nous contraindre, à nous réduire, à nous garder entre les mains des donneurs d'ordre pour faire de nous des ressources humaines, même quand il n'a aucune utilité. C'est pourquoi il faudra être inflexible quand on aura décidé de se débarrasser de ceux qui nous font passer la vie pour tout simplement une lutte pour la gagner. Ensuite, pourquoi abolir le travail ? Eh bien, à cause de sa dangerosité. Tout d'abord, il tue plus de 700 personnes par an en France. Oui, ce sont les données de la Caisse primaire d'assurance maladie, enfin de la Sécurité sociale. Des millions dans le monde. Selon les dernières estimations de l'OIT, pour l'année 2019, plus de 395 millions de travailleurs dans le monde ont subi un accident du travail non mortel. Ouf ! En outre, environ 2,93 millions de travailleurs sont décédés à la suite de facteurs liés au travail. Et voilà, on apprend ça justement dans un rapport fait par l'OIT pour l'année 2019 qui est apparu en 2023. Donc le travail tue presque 3 millions de personnes en 2019 dans le monde. Et il blesse 700 000 accidents chaque année si on associe les chiffres de la CPAM, de la MSA, etc. Tous ceux qui travaillent sur le travail. Plus de 1900 par jour, ça c'est en France. Et enfin, il abîme. Début avril 2025, l'assurance maladie a publié un tableau récapitulatif des maladies professionnelles indemnisées entre 2000 et 2023. Eh, ça a doublé entre 2000 et 2023, passant de plus de 21 000 maladies professionnelles indemnisées à plus de 47 000, avec un joli pic à 54 000 au début des années 2010. Ben, pourquoi on n'est pas allé plus haut ? Ben oui, plus c'est moins quand même. Ah non, là, ils se sont dit quand même que ça devait cesser. Alors, 47 000 en 2023, 44 000 en 2022, 47 000 en 2021. Ouais, on atteint un palier là. 40 000 en 2020 avec la Covid. Les salariés ont pu faire une pause. Et ben les maladies aussi. Des maladies surtout liées au transport de charges lourdes, aux gestes répétés qui entraînent les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques. Mais les maladies professionnelles dont nous avons parlé la dernière fois, notamment l'amiante, etc., sont aussi liées à l'exposition des salariés à des produits toxiques. Ben oui, on a parlé de l'amiante. L'amiante interdite depuis la fin du XXe siècle, mais actuellement, des millions de salariés, surtout des ouvriers d'usines et du BTP, sont exposés à d'autres produits, des produits cancérogènes, des perturbateurs endocriniens, etc. Pour s'en convaincre, les données sont publiques. Hein. Il suffit de récupérer les résultats des enquêtes SUMER, S-U-M-E-R. Et puis, il y a toutes les atteintes au ciboulot. Le travail abîme nos cerveaux, génère de la souffrance psychique. On le sait depuis longtemps. En 1884, dans sa conférence intitulée « Travail utile, fatigue inutile », William Morris, dont nous venons de parler, explique en quoi l'industrialisation empêche d'accéder à ce qu'on attend d'une activité, d'un travail bien fait. Pourquoi ? Eh bien, je le cite. « Quelle est la nature de l'espoir qui, quand il existe, justifie qu'un travail soit accompli ? Elle est triple selon moi, l'espoir du repos, l'espoir du résultat produit, l'espoir du plaisir du travail en soi, auquel s'ajoute l'espoir de jouir des bienfaits suivants, à condition qu'ils soient en quantité suffisante et de bonne qualité, un repos suffisamment long et bon pour qu'on puisse y aspirer, un produit susceptible de tenter quiconque n'est ni fou ni ascétique, suffisamment de plaisir pour l'éprouver quand on est au travail. Et que ce ne soit pas une simple habitude dont nous ressentirions la perte à l'instar d'un bout de ficelle qu'on triture quand on est nerveux. J'ai mis l'espoir de repos en premier parce qu'il en constitue la partie la plus simple et la plus naturelle. Quel que soit le plaisir lié à un travail, il y entre forcément de la souffrance. La souffrance animale de se mettre en branle, les énergies qui sommeillent en nous, la peur animale du changement quand les choses se passent plutôt bien pour nous. La contrepartie de cette souffrance animale est le repos animal. Pendant que l'on est en train de travailler, on doit pouvoir sentir que viendra un moment où ce travail prendra fin. Par ailleurs, le repos, le moment venu, doit être suffisamment long pour pouvoir en profiter. Il doit durer au-delà du nécessaire pour recouvrir les forces dépensées en travaillant. Et il faut aussi que ce repos, soit animal en cela qu'aucune angoisse ne viendra le troubler. Sinon, nous ne serions pas en mesure d'en profiter. Si nous disposons d'un repos de cette nature et en pareille quantité, alors notre existence ne sera pas pire que celle des bêtes. Quant à l'espoir du travail, du résultat produit, j'ai dit que la nature nous oblige à travailler pour cela. Il nous appartient de veiller à ce que nous produisions réellement quelque chose et non rien, ou du moins rien qui réponde à nos attentes ou que nous sachions utiliser. Si nous avons à cœur d'y veiller, nous vivrons alors mieux que des machines. L'espoir du plaisir dans le travail en soi, cet espoir doit paraître bien étrange à certains de mes lecteurs, voire à la plupart d'entre eux. Je pense cependant qu'il n'est pas d'être vivant qui n'éprouve de plaisir à dépenser son énergie, et que les bêtes elles-mêmes jouissent d'être agiles, fortes et rapides. Mais un homme qui travaille et fabrique une chose dont il sent qu'elle n'existera que grâce à son travail et à sa volonté, convoque toutes les énergies intellectuelles, morales et physiques. La mémoire et l'imagination l'aident dans son travail. Ses mains obéissent non seulement à ses propres pensées, mais à celles des hommes du passé. Et c'est parce qu'il fait partie de l'espèce humaine qu'il crée. Si nous travaillons de cette façon, nous serons des hommes et notre existence sera heureuse et féconde. Ainsi, le travail de valeur apporte avec lui l'espoir du plaisir que l'on tire du repos, l'espoir du plaisir que procure l'utilisation de ce qu'il a produit et l'espoir du plaisir lié à l'exercice au quotidien de nos facultés créatives. Tout autre travail ne vaut rien. C'est du travail d'esclave. Cela revient juste à travailler dur pour vivre, afin de pouvoir vivre pour travailler dur. Voilà un non-sens qui n'est malheureusement pas que britannique. Notre espace de pensée occupé par des considérations qui ne nous concernent pas, comme assurer son chiffre d'affaires, trouver comment aller plus vite sur une chaîne de production, ou un chantier pour pas se faire virer, supporter les réflexions, l'acrimonie, les blagues, les allusions des collègues, des petits ou grands chefs pour ne pas péter les plombs et garder son salaire. Tout ça nous coûte. Nous coûte du temps, du sommeil que nous pourrions passer à nous épanouir. Mais aussi, ça nous coûte parfois la santé, tout simplement. Un psy du nom de Christophe Desjours a développé le concept de psychodynamique du travail. Celui-ci montre comment la construction de la santé mentale au travail repose sur le jugement d'utilité qui est amené par la hiérarchie, qui valide donc ce que vous faites et vous en remercie, et qui est validé également par les collègues reconnaissant que vous avez respecté les règles de l'art, c'est du travail bien fait. Seulement, l'organisation de ce travail ne nous appartient pas, le cadre ne nous appartient pas, les process non plus, le temps imparti, tout ça nous échappe souvent et échappe souvent à ceux qui effectuent les tâches. Et nous voilà donc dans des cas où apparaît la souffrance éthique générée par le fait d'accomplir des actes que techniquement et moralement nous réprouvons. On pourra se souvenir, en 1999 à Allonnes, la CGT a organisé un colloque sur la souffrance au travail et j'avais vu le témoignage d'une aide-soignante en pleurs qui nous expliquait qu'elle avait 4 minutes pour nourrir des petits vieux dans un EHPAD. 4 minutes, pas moyen de leur parler et elle parlait de gavage. Voilà ce qu'on se retrouve à faire dans certains emplois. Sur le sujet, on pourra lire « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Merci Jean de La Fontaine pour ce titre. Un livre de Marie Peset de 2010, qui est en partie tiré d'un documentaire de 2006 avec le même titre, où vous pourrez voir justement Monsieur Desjours dont on a parlé. Alors que faire, comme disait l'autre ? Bon, un certain Giuseppe Renzi propose une révolution. contre le travail. Cette révolution pourrait être de réduire la place de l'économique dans la société. Vous aurez reconnu là le travail de Karl Polanyi sur le réencastrement de l'économie dans le social. Un certain André Gorz, qui est redécouvert actuellement, notamment sous la plume de la philosophe Céline Marty, faisait un éloge du suffisant, ce qui donne des convulsions aux adorateurs des signes extérieurs de richesse. T'as vu ma bagnole ? Et du paraître. T'as vu mon costard ? Oui, camarade bourgeois, c'est de toi qu'on cause. Un éloge du suffisant qui passe par une politique éco-sociale, qu'il explique par exemple dans un texte de 2007 intitulé « L'écologie politique entre expertocratie et auto-limitation », paru dans une revue qui s'appelle « Actuel Marx » en 1992. Je le cite. Le sens fondamental d'une politique éco-sociale telle qu'elle a été longuement débattue par les Verts allemands et européens durant les années 1980 et telle qu'elle émerge actuellement dans l'écologie politique française est de rétablir politiquement la corrélation entre moins de travail et moins de consommation d'une part, plus d'autonomie et plus de sécurité existentielle d'autre part pour chacun et chacune. Il s'agit autrement dit de garantir institutionnellement aux individus qu'une réduction générale de la durée de travail ouvrira à tous les avantages que chacun pourrait en obtenir jadis pour lui-même. Une vie plus libre, plus détendue et plus riche. L'auto-limitation se déplace ainsi du niveau du choix individuel au niveau du choix du projet social. La norme du suffisant, faute d'ancrage traditionnel, est à définir politiquement. Sans entrer ici dans le détail de questions que j'ai discutées par ailleurs, je rappelle seulement que la politique éco-sociale consiste principalement à rendre la garantie d'un revenu suffisant indépendant de la durée du travail et éventuellement du travail lui-même, à redistribuer le travail socialement nécessaire de manière que tout le monde puisse travailler et travailler à la fois mieux et moins, à créer des espaces d'autonomie dans lesquels le temps libéré du travail puisse être employé par les individus à des activités de leur choix, y compris des autoproductions de biens et de services qui réduiront encore leur dépendance du marché et des prises en charge professionnelles ou administratives et leur permettront de reconstituer un tissu de solidarité et de socialité vécu, fait de réseaux d'aide mutuelle, d'échanges de services, de coopératives informelles. La libération du temps, la libération du travail hétéronome, fonctionnellement spécialisé, doivent être conçus comme une politique d'ensemble qui demande aussi qu'on repense l'architecture et l'urbanisme, les équipements et services publics, les rapports ville-campagne de manière à décloisonner les sphères de vie et d'activité, à favoriser les échanges auto-organisés. L'écologie politique fait ainsi des changements écologiquement nécessaires dans la manière de produire et de consommer, le levier de changements normativement souhaitables dans le mode de vie et les relations sociales. La défense du milieu de vie au sens écologique et la reconstitution d'un monde vécu se conditionnent et se soutiennent l'une l'autre. L'une et l'autre exigent que la vie et le milieu de vie soient soustrait à la domination de l'économique, que croissent les sphères d'activité dans lesquelles la rationalité économique ne s'applique pas. Autonomes et responsables, voilà comment nous détestent les libéraux qui ont besoin de ressources humaines pour accumuler le profit qu'ils s'accaparent. Voilà donc notre horizon. Devenir autonome et responsable. Et tant pis pour les signes extérieurs de richesse. Autonome et responsable. Alors au travail ? Mais pas salarié. On y est presque, alors que vous dire de plus ? N'hésitez pas à vous renseigner sur la façon d'abolir le travail, mais aussi sur ce qui se passe dans notre belle contrée et même un petit peu plus loin. Le samedi 10 mai, par exemple, toujours un rassemblement pour la Palestine à 14h, place de la République. Et il y aura également, place de la République, un autre rassemblement à 14h pour commémorer la journée de l'abolition de l'esclavage. Et sur la région parisienne, place du Panthéon, un village lié au fait que les FAF, les purs et durs, vont encore manifester. Le comité du 9 mai va encore manifester dans les rues de Paris, puisque le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public pour que des gens avec des croix celtiques et des masques nous proposent des slogans révolutionnaires nationalistes. Ouais, tout va bien. Donc, plusieurs temps forts pour la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage, 14h, place de la République, et également à 14h, un rassemblement pour la Palestine et surtout les Palestiniens. Sinon, jeudi 15, assemblée du collectif sartois des Soulèvements de la Terre, ça se passe à la Maison des Citoyens-Citoyennes, place des Comtes du Maine à 18h30. Jeudi 15 15 mai 2025 les soulèvements de la Terre qu'avait voulu détruire un certain Darmanin. Il n'a pas réussi. Pourquoi ? Bah, il faut croire que c'est la Terre qui se défend. Allez, bah, en attendant de se retrouver ici ou là-bas ou ailleurs, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.